Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de
tout ici, Jamodima,
qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Le titre du message ce soir, c'est « La prospérité glorifie Dieu ». Je peux vous dire, et je prie pour que vous ne l'oubliez jamais ce titre-là. La prospérité glorifie Dieu. Quand tu as des promotions, quand le Seigneur te donne des choses qui sont belles, quand le Seigneur te fait faire de bonnes affaires, quand le Seigneur te fait passer d'un niveau matériel à un autre niveau, il faut que tu saches que Dieu en tire gloire. Dieu n'est pas indifférent à ton niveau matériel. Il veut que tu prospères. Dieu a besoin que tu prospères parce qu'il peut largement en tirer gloire. Alors, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu dire que Dieu voulait que l'on prospère et qu'en plus, lui vivait dans la prospérité, c'est vrai que quand j'étais incroyant, je m'étais pas vraiment posé de questions où vivait Dieu, il vit bien, il vit pas bien, oulala, il fait sa vie, je fais la mienne, hein. Mais une fois que j'ai donné ma vie au Seigneur, on est tellement habitué à entendre que Dieu veut que l'on soit pauvre, parce que être pauvre veut dire être pieux, que même je suis rentrée dans l'église et je suis née de nouveau, j'ai commencé à vivre, mais sans penser que Dieu pouvait être intéressé par un changement de standing de ma part. Mais le jour où j'ai entendu que Dieu voulait nous rendre prospères, qu'il s'était assuré de nous donner légalement les moyens pour le devenir, moi j'ai dit c'est pas possible ça. Première réaction, incrédulité, c'est pas possible. Vous savez ce que l'on dit? C'est trop beau pour être vrai. Non? Vous n'avez pas eu cette réaction? On dit, allez. Mais à force d'avoir étudié les Écritures, non seulement j'ai trouvé que c'était beau, mais en plus j'ai trouvé que c'était vrai. Et puisque c'était vrai, eh bien j'avais intérêt à me pencher davantage sur le sujet, parce que ce que je lisais dans les Écritures avait la puissance nécessaire pour changer ma vie. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors, avoir des biens et posséder des biens matériels, va complètement dans la volonté de Dieu. À vrai dire, notre prospérité, selon Dieu, reflète la nature et le caractère de Dieu. La prospérité du chrétien reflète la nature et le caractère de Dieu. Intéressant. Alors, considérons Jésus-Christ dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, chapitre 17. Et Jésus dit, il s'adresse au Père. Et il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Quand Jésus a dit « Je t'ai glorifié sur la terre », ma question est-ce que Jésus a glorifié Dieu par la pauvreté, ou est-ce que Jésus a glorifié Dieu, a divulgué le nom de Dieu, a exalté le nom de Dieu à chaque fois que non seulement ses besoins étaient pourvus, mais qu'il était tellement dans l'abondance qu'il pouvait même être une bénédiction aux autres. Comment est-ce que Jésus a glorifié le nom de son Père? Parce que s'il dit « J'ai glorifié le Père sur la terre. Sur la terre. Ça veut dire qu'il est peut-être possible pour nous de glorifier le Père sur la terre. Serait-il possible que Dieu envisage que chacun de ses enfants le glorifie à travers les biens matériels? Ou est-ce que Dieu n'en a rien à faire? Oh, ben tant mieux pour toi, si tu vis bien. C'est vrai que c'est mieux de démarrer sa voiture le matin quand on sait qu'elle va démarrer même sous la neige, plutôt que d'avoir à la pousser. C'est quand même mieux pour nous. Mais est-ce qu'il peut y avoir des raisons qui sont autres que cela? C'est vrai qu'à chaque fois que la corbeille passe dans les dîmes et les offrandes pour peut-être donner à une œuvre quelconque, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir dire « je vais donner ». Mais est-ce qu'il peut y avoir même une raison qui est supérieure à celle-là? Oui. C'est que tout simplement, Dieu reçoit de la gloire quand ses enfants prospèrent. Dans Jean chapitre 10, ce même Jésus qui était Dieu révélé en chair a dit au verset 10, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait juste assez ce qu'il faut, parce qu'il faut quand même pas pousser, hein. Déjà, vous avez la vie, alors soyez bien contents. Et c'est là que ça s'arrête, c'est ce qu'il est écrit? Non. Ok, on parle de qui? On parle du Dieu que vous et moi adorons. On parle du Dieu à qui nous avons donné notre vie. On parle du Dieu qui est en train de se révéler dans ce texte de l'Écriture et qui dit, voilà qui je suis. Il dit, je suis le bon berger. Il dit, non seulement je suis le berger, mais il dit, je suis bon. Et non seulement je suis le bon berger, mais je vous ai donné ma vie afin que cette vie soit en vous et qu'elle soit en abondance. Mais c'est plus que cela. C'est que partout où la vie de Dieu voit, elle produit l'abondance. C'est bien d'avoir la vie de Dieu en nous, mais en abondance, de ne pas manquer de la vie de Dieu. Mais c'est plus que ça. C'est que la vie de Dieu, quand elle va quelque part, eh bien, elle produit l'abondance. Seulement, si les chrétiens croient que Dieu nous veut pieux, ok, mais pauvres, ils non seulement ne rechercheront pas l'abondance, mais ils vont lutter contre l'abondance. Ils vont dénigrer l'abondance et Dieu, lui, ne sera jamais glorifié comme il a le droit d'être glorifié. Vous comprenez? Alors, ce même Dieu est révélé, hein, simplement écoutez dans 1 Corinthiens 3,16, quand Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Il faut comprendre que ton Dieu est un Dieu de vie. Ça n'est pas un Dieu statique, ça n'est pas une statue. Dieu n'est pas, Dieu est celui qui ne change pas. Dieu ne change pas, mais dans le fait qu'il ne change pas et qu'il est le même éternellement, il vit. Et sa vie est continuellement en mouvance, continuellement Dieu bouge, continuellement. Et ce qu'il veut, c'est que sa vie, nous l'expérimentions de plus en plus. Regardez avec moi dans le livre de Agé, et vous avez 2 secondes pour le trouver, page 1082 pour ceux qui ont la même Bible que moi. Il y a un avantage, c'est qu'on peut marquer les pages quand on prêche et arriver avant tout le monde. 1082. C'est alors trouver Zacharie et c'est juste avant. Voilà, c'est plus simple. Hein? Regardez le chapitre 2, verset 7. Dieu dit, j'ébranlerai toutes les nations. Les biens les plus enviables de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Ici, il est question de rebâtir le second temple. Mais vous avez remarqué ce que le Seigneur dit? Il dit, en même temps que l'argent va venir, la gloire va venir. Est-ce que vous saviez qu'il y a une certaine gloire qui est attribuée, une certaine gloire divine, pas la gloire humaine? Quelquefois, les gens ont beaucoup d'argent et ils ont beaucoup de leur gloire qui s'attache à cet argent. Et leur gloire, c'est dans la manière. Leur gloire n'est pas dans leur Jaguar. Leur gloire n'est pas dans leur appartement 6 pièces qui fait 2000 mètres carrés, dans une propriété de 10 000 mètres carrés qui est complètement, qui est belle. Leur gloire n'est pas là. Quand je parle de la gloire humaine, c'est la manière dont ils ouvrent leur Jaguar pour montrer à tout le monde que c'est à moi. C'est la manière dont ils conduisent leur Jaguar. Si pousse ta poussette là, parce que je roule. C'est leur gloire, c'est de ça. La Jaguar ou la maison ou l'événement, la marque, ça n'a aucune gloire en lui-même. L'objet n'a que la gloire qu'on lui donne. Mais l'objet peut porter la gloire de l'homme ou l'objet peut porter la gloire du diable, si c'est la mafia peut-être qui amène ces choses, ou alors cet objet peut porter la gloire de Dieu. Wow! Est-ce que tu t'en rendais compte de toutes ces choses-là? Ça, c'est nouveau, c'est une nouvelle manière de penser. Par exemple, je peux te dire que si demain, tu vas au Nigeria, avec toute ta panoplie de Louis Vuitton, hein, tu as toutes tes valises Louis Vuitton qui arrivent sur la ceinture à l'aéroport, et tu arrives avec ton petit sac, tu ouvres ton beau portefeuille, et tu as ton petit porte-clés, hop, il vient de tomber, c'est un Louis Vuitton, da-da-da-da, je peux te garantir, les gens, ils veulent t'en regarder, et ça ne leur fera rien du tout, ça n'épatera personne. Un objet n'a que la gloire qu'on lui donne. Et même, je te dis, avec son Louis Vuitton, il va se trouver ridicule, parce qu'il sera le seul attache la gloire et verra que ça n'intéresse personne. Ceci dit, Dieu sait que la gloire et l'argent peuvent aller ensemble en ce qui le concerne et dit puisque ces deux choses vont ensemble et que l'argent m'appartient, j'aimerais bien que ma gloire y soit. C'est bon, non? Est-ce que c'est une autre façon de penser? Oui. Alors, on va voir des exemples, parce que tout à l'heure, on vient de lire hein, que Jésus est le bon berger. Et il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie, c'est-à-dire qu'avant, on ne l'avait pas. Pourtant, il parle à des vivants. Il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie, et en plus, afin que vous l'ayez avec abondance. Abondance, pour moi, ça veut dire il n'y a pas de limite. Sur l'abondance, il n'y a que la limite que moi je lui mets. Parce qu'attention, ça n'est même pas Jean qui a écrit ce texte. C'est Jésus lui-même. Et la Bible nous dit dans Ésaïe que les pensées de Dieu ne sont pas les tiennes et ne sont pas les miennes. Parce que les pensées de Dieu sont bien au-dessus des nôtres. Ce qui me dit... Si mon Seigneur, qui ne ment pas, me dit qu'il a en vue pour moi la vie, et la vie en abondance, et moi, l'abondance, pour moi, je pense à des choses qui sont grandes, ça me dit que je pense encore trop petit, parce que c'est mon Dieu qui l'a écrit. Ce qui me fait dire aussi qu'il vaut mieux que je renouvelle mes pensées et que j'apprenne à penser comme Dieu, si je veux voir peut-être ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'il a voulu pour moi quand il a eu ce verset en tête, parce qu'il savait qu'un jour je le lirais. Tu es le seul à pouvoir mettre une limite sur l'abondance que Dieu a prévue pour toi, en sachant que ta notion de l'abondance n'est que l'ombre de la notion de l'abondance de Dieu. C'est une bonne nouvelle ou c'est pas une bonne nouvelle ça? Alors, nous allons voir des cas dans la Bible, des exemples dans la Bible où on a vu l'abondance de Dieu. Je vais vous donner les Écritures, Genèse chapitre 13, versets 5 à 10. Vous vous rappelez que Abraham a entendu Dieu lui dire « Va, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai ». Il y a été et sur le chemin de l'obéissance, il y a la prospérité. À vrai dire, le mot prospérité, à l'origine, veut dire faire un bon voyage. C'est ça que ça veut dire. Le mot prospérité veut dire, à l'origine, faire, si je te dis, sois prospère, ça veut dire faire un bon voyage. Ce qui aussi me fait comprendre que Dieu veut que je voyage bien sur terre. Et pour que je voyage bien sur terre, il a l'intention de pourvoir à tous mes besoins. Il a l'intention de déverser une telle abondance sur moi que je pourrais même refléter sa générosité et sa bonté à mon monde afin que ceux qui héritent de la générosité puissent dire « Merci mon Dieu ». Mais Abraham, il nous est dit qu'il est arrivé à un tel stade. Dieu a tellement déversé l'abondance sur lui. Dieu a tellement déversé la prospérité que ce texte nous dit que Lot et Abraham avaient prospéré les deux en même temps et ils ne pouvaient plus demeurer ensemble parce que le pays dans lequel ils étaient, la région dans laquelle ils étaient, était trop petit pour eux. Imaginez, vous êtes dans un immeuble et vous avez un partenaire avec vous dans votre entreprise et votre entreprise est tellement bénie que vous dites, « Hey, toi tes secrétaires prennent trop de place, je n'en peux plus, il faut que j'emploie un autre comptable, il faut que j'emploie trois autres secrétaires et regarde, il n'y a plus de place !» Et votre partenaire dit, tu sais, t'as raison, je vais acheter le bâtiment qui est juste en face et on va se faire de la place tous les deux parce qu'on va continuer à s'agrandir. Un autre exemple, dans 2 Samuel, chapitre 12, peut-être que celui-là, on va le lire rapidement. 2 Samuel, chapitre 12, ici, vous rappelez que David est resté, au lieu d'aller à la guerre et de partir en campagne, il est resté dans son palais et il se trouve qu'il a commis l'adultère avec Bathsheba. Seulement, au lieu de se repentir, il a fait traîner l'histoire et un an après, le prophète Nathan vient vers lui et il lui dit « Tu as péché » et David dit « C'est vrai » et regardez ce que l'Éternel dit par la bouche de Nathan. Alors Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël. Et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était trop peu, j'y ajouterais encore. Dieu est en train de dire à David, regarde, je t'ai béni là, je t'ai béni là, je t'ai béni là, je t'ai béni là. Et si malgré toutes ces bénédictions, tu avais estimé que ça n'était pas assez, il dit, j'aurais encore ajouté. Regardez dans Job, chapitre 42, juste avant les psaumes. Job, chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit la situation de Job, et quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et alors, on pourrait se dire, ben oui, Job, c'est bien ce qu'il a possédé, mais est-ce que ce qu'il a possédé était bien ou est-ce que c'était, il vivait avec le RMI? La Bible nous dit au chapitre 1 que Job était l'homme le plus considérable de toute la région. C'était l'homme le plus riche de toute la région. Et il a marché avec Dieu et après avoir surmonté toutes les difficultés, la Bible nous dit que Dieu lui a donné le double. Est-ce que Dieu a été glorifié à travers Abraham? Est-ce que Dieu a été glorifié à travers David? Oh oui! Est-ce que vous rappelez que David a eu ce fils Salomon et que la reine de Saba, quand elle est venue voir Salomon, elle a été émerveillée devant tout ce qu'elle a vu. Et tous les biens matériels qu'avait Salomon ont rendu gloire à Dieu. Tous les biens que David a eus ont rendu gloire à Dieu. Tous les biens que Abraham a eus ont rendu gloire à Dieu. Tous ont su d'où venait leur prospérité. Personne ne s'est attribué cette prospérité. Et tous ont ramené la gloire à Dieu. Est-ce que Dieu peut être glorifié à travers ta prospérité? Oui. Et je vais te dire, Dieu cherche à se glorifier à travers les biens matériels qu'il veut te donner. à travers l'appartement, à travers cette nouvelle voiture. Tu peux dire, mais oh, j'en ai pas besoin, égoïste. D'abord, si toi tu n'en as pas besoin, peut-être que tu peux le recevoir par la foi. Laisse Dieu te bénir et donne-le à quelqu'un qui en a besoin. Et d'un. Et de deux, peut-être que tu n'en as pas besoin, mais peut-être que Dieu en a besoin pour se glorifier. Encore une fois, moi je connais beaucoup de gens qui sont aisés, qui sont très riches, et c'est eux qui ont la gloire. Mais pour nous chrétiens, quand Dieu nous bénit, mais vous savez ce qu'on a à dire? Moi quand les gens viennent chez moi, je peux dire, Dieu m'a béni, si les gens disent, oh là là, vous savez quelle est ma réaction en tant que chrétienne? C'est dire, je sers un Dieu qui est fidèle. Tout ce que vous voyez là a une histoire. La voiture que je conduis a une histoire. Et la prochaine a une histoire qui est encore plus belle. On peut donner gloire à Dieu. Et on doit donner gloire à Dieu. Mais il faut que les gens aient quelque chose à voir de nous. Il faut qu'ils puissent voir Dieu. On voit également dans Proverbes chapitre 8, verset 18, il est dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Alors, avec moi, il est question de la sagesse, et la sagesse qui ici personnifie Jésus. Hein, Jésus est en train de dire, avec moi sont la richesse, avec moi sont les biens durables, avec moi sont la gloire. Et là, personnifié par, c'est la sagesse hein, qui est personnifiée. Mais remarquez ce que Jacques nous dit. Jacques nous dit dans son livre, il dit, si vous manquez de sagesse, demandez. Jacques dit, si vous manquez de sagesse. Pourquoi? Parce que en faisant preuve de sagesse, on s'enrichit. En faisant preuve de sagesse, on sait mieux gérer l'argent. En faisant preuve de sagesse, on sait comment réclamer à Dieu. Et Dieu dit que par la sagesse, il fera venir tous ses biens vers nous. Bon, est-ce qu'on peut se permettre d'être pauvre, pas aux yeux de Dieu, pas quand on comprend comment Dieu parle à travers notre vie. Vous savez, quand Jésus a dit qu'il voulait nous revêtir de la puissance d'en haut afin que nous soyons ses témoins, c'était pas simplement au niveau de la tchatch. Très souvent, on limite ce verset à l'évangélisation. Je vais être un témoin de Jésus-Christ, c'est-à-dire je vais évangéliser. Un témoin, ça veut dire, regardez ce qui se passe, je vais vous dire ce qui s'est passé exactement. Par exemple, à travers ma prospérité, je témoigne de Dieu. Dans Malachie chapitre 3, il nous est dit que si nous apportons dans la maison du trésor toutes les dîmes, le Seigneur nous a promis de faire une chose, de que faire? D'ouvrir pour nous les écluses des cieux. Mais tu sais ce que ça veut dire? Si demain Dieu ouvre les vannes des cieux, et là, il parle de nous bénir au point que les bénédictions dans la famille, dans le mariage, dans la santé, au travail, à l'école, dans les activités de loisirs, partout, on voit la bénédiction qui est avec nous. Alors, la bénédiction vient du latin « bene dire », bien dire, bien parler. Mais à vrai dire, vous savez ce que c'est la bénédiction? Quand on dit « oh tiens, j'ai reçu une nouvelle bénédiction ». On dit, ah bon, qu'est-ce que c'est? Il dit, viens avec moi dans la rue, paf, on regarde, regarde, j'ai une nouvelle voiture. Oh, j'ai reçu une nouvelle bénédiction. C'est quoi? Eh bien, j'ai reçu, tu sais, 400 euros d'augmentation de salaire. Waouh! Mais ça n'est pas la bénédiction, ça. Ça, c'est le fruit de la bénédiction. La bénédiction, c'est la puissance de prospérer. Quand il nous est dit que nous sommes bénis en Christ, ça veut dire qu'il nous a donné la puissance de prospérer. La puissance de prospérer fait que j'ai une augmentation. La puissance de prospérer fait que j'ai une nouvelle voiture. La puissance de prospérer fait que j'ai un meilleur travail. La puissance de prospérer fait que je peux changer de marque. La puissance de prospérer fait que j'ai plus d'argent pour donner. Ça, là, c'est ce qu'il nous est dit dans Deutéronome, chapitre 8. Peut-être que certains ont besoin de se remémorer ce verset. Regardez avec moi dans Deutéronome, chapitre 8. Parce que quand on dit « je suis béni », ça ne veut pas dire « j'ai des biens ». Non, ça c'est le fruit de la bénédiction. Mais Deutéronome, chapitre 8, regardez ce qu'il est dit, verset 18, tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force, le mot ici puissance, pour acquérir ses richesses. C'est la puissance pour devenir riche, la force pour devenir riche, l'onction pour prospérer. Vous voyez la différence? Bien, dans Jean 21, il nous est dit que les filets étaient si remplis qu'ils étaient presque déchirés. Dans Luc chapitre 5, 4, 6, il est dit que les filets de pêche se rompaient à cause de l'abondance. Et vous savez, les filets de pêche ne sont pas faits avec du fil à coudre. C'est solide. Et pour que des filets de pêche soient en train de se déchirer, ça me dit que le mot abondance ici était approprié. Luc chapitre 5, verset 7 nous dit qu'il y a deux barques qui ont failli couler à cause de l'abondance. Marc chapitre 6, 41-44 nous dit qu'il est resté 12 paniers après qu'il y ait une multitude de gens qui aient été nourris. Il est resté 12 paniers plein, pas à moitié rempli, plein de pain et de poissons. Marc chapitre 8, 6 à 8 nous dit qu'il est resté 7 corbeilles, c'était la seconde multiplication, 7 corbeilles pleines. Luc chapitre 6, 38 nous dit, donnez et il vous sera donné une bonne mesure. Nous servons le Dieu de la bonne mesure. Une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Quand Dieu est en train de penser à te bénir, il est en train de penser à te donner une mesure qui va déborder, qui va tellement déborder de ta vie que les gens vont se retourner et vont dire, mais dis-moi là, t'as hérité ton grand-père ou c'était quel prince? Quand les gens sont en train de vous regarder, dis, mais dis-moi là, comment est-ce que tu as fait pour avoir ces choses-là? Et là, on peut leur dire, attends, moi je vais te dire comment. Moi je vais exactement te dire comment. Est-ce que tu te rends compte que ta prospérité parle? Ta prospérité parle de ton bon berger. Alors, c'est vrai que, imaginez que vous ayez entendu, étant enfant, parler d'un bon berger. Et on vous a dit qu'il était bon, qu'il était bon, qu'il était bon, qu'il était bon. Un jour, on vous dit que ce bon berger va rendre visite à votre village. Il va passer sur la place du village avec son troupeau. Vous en avez tellement entendu parler, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Vous avez déjà dans votre tête le portrait du personnage, non? Vous pensez à son allure, il doit avoir une allure fière, il doit être généreux dans ses gestes, il doit avoir un troupeau de brebis qui est bien gras, bien entretenu, et vous dites on va faire de la place à ce berger-là et à ce troupeau. Et vous, vite, courez sur la place du village, et une fois que vous êtes arrivé là, vous voyez le berger, vous dites, bah, dis donc, ouais, hein, comme je l'avais imaginé, hein. Beau, costaud, avec de beaux vêtements de berger, et il a une allure, il est plein d'assurance dans son allure, il est généreux dans ses gestes. Et après vous regardez le troupeau et vous dites, elles sont pas tendues ces brebis. Et puis en plus on leur voit les côtes, elles sont toutes malades. Elles ont faim ces brebis. Puis à la fin du troupeau, vous en avez trois ou quatre qui ont la patte qui est cassée, qui traînent, qui sont malades. Il y en a une, il y a un œil qui lui manque. Il y a du sang qui coule. Elles sentent mauvais. Mais dites-moi, est-ce que vous trouveriez que ce berger est toujours aussi bon? Hein? Et après, on vous dit, ah non, 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 mais viens avec moi dans le troupeau du Seigneur. Il est bon! Non mais attendez, on rit parce qu'on connaît notre Seigneur. Mais les gens connaissent Jésus à travers notre vie. Ils connaissent Jésus à travers notre appartement. Ils connaissent Jésus à travers notre voiture. Merci Seigneur pour une nouvelle voiture, je te rappelle la marque. Ils connaissent notre Seigneur à travers la manière que nous présentons. Dieu veut tirer gloire de la prospérité. Mais pour qu'il tire gloire de la prospérité, il va falloir que tu acceptes que Dieu veut te rendre prospère. Et c'est de la folie quand les chrétiens, vous rendez compte que le diable a réussi pendant des siècles à faire croire aux chrétiens. Il a réussi à faire croire, ah oui, Jésus est le bon berger. Et on voit toutes les brebis et dit, non, 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 mais il est quand même le bon berger. Il veut pas que tu sois guéri, il veut que tu restes pauvre. Il n'en a rien à faire des choses matérielles et après tout le fait que tu es d'événement ou pas. Alors là, ça ne l'intéresse pas du tout, hein, tes chaussures. Mais malheureux, comment tu veux qu'il pense à tes chaussures? Lui, il est au ciel. Et il a réussi à nous faire croire que, ah non, non, mais c'est le bon berger. C'est le bon berger. Vous croyez pas qu'il est temps qu'on renverse la vapeur? Vous croyez pas qu'il est temps que l'Église dise, attends là. J'ai un bon berger, je le sais, mais je vais le démontrer maintenant. Je vais le démontrer, et non seulement moi je vais faire ma part, mais je vais proclamer à voix haute que je prospère. Pas que je prospère dans mes petites limites à moi, que je laisse Dieu me rendre prospère à son échelle à lui. Alors ceci dit, tous on a des limites sur la prospérité, parce qu'on est tous impressionnés. Une chose qui peut vous aider à prospérer, c'est aller dans des beaux magasins et regarder autour de vous ce que ça veut dire. Allez dans des beaux quartiers et regardez ce que ça veut dire de prospérer. Allez dans des magasins où il y a des beaux vêtements. Je ne suis pas en train de vous dire dépensez ce que vous n'avez pas. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais je suis en train de vous dire acceptez de vous trouver dans une atmosphère, allez dans un bel hôtel prendre un café. Vous savez que pour beaucoup de chrétiens, c'est très difficile d'aller dans un bel hôtel prendre un café. Ils vont peut-être le payer un petit peu plus cher. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a tout dans leur être qui a envie de fuir. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont faits pour le juste assez, pour la pauvreté, pour le manque. Et il dit, je suis pieux quand je vis dans cette atmosphère-là. Le diable se glorifie de la pauvreté et Dieu se glorifie de la prospérité. Et il est temps que l'Église de Jésus-Christ renverse la vapeur et parle la vérité, parce que oui, on a raison de dire, on sert un Dieu qui est bon, mais et le démontrer. Alors très souvent, on dit, oui, mais tu sais, si tu savais ce que je gagne, tu me dirais pas que Dieu me veut prospère. Qui a dit que Dieu est limité à ce que tu gagnes? Nous, notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à prospérer parce qu'on a décidé comment la prospérité venait. Et parce qu'on a déjà décidé la prospérité, elle va venir par cette avenue, par cette avenue, par cette avenue et par cette avenue, eh bien, on ne laisse pas suffisamment de choix à Dieu pour nous bénir. Et il y a de grandes chances que si Dieu nous bénissait d'une autre manière, on dira, ah ben non, c'est pas pour moi. Moi, je vais vous dire, ce message est très très fort dans mon cœur. Hein. Très très fort dans mon cœur. Alors, Abraham avait compris que Dieu était bon, et Abraham avait compris qu'à cause de l'alliance qu'il avait avec Dieu, il devait prospérer pour rendre gloire à Dieu. Il l'avait compris. Lot, lui, n'avait pas compris, parce qu'il a cru que la prospérité, il devait lui se l'approprier, quitte à faire des compromis. Non, évidemment, il y a une manière de prospérer qui est selon Dieu. Oh, la Bible nous parle de richesses qui sont injustes. Prospérer en trichant n'est pas prospérer. Dieu n'a pas la gloire. Est-ce que vous avez déjà vu un chrétien qui prospère parce qu'il a triché? Et quand on lui dit, on me dit, moi, comment t'as eu ça, toi? Oh là là, c'est beau, hein? Normalement, le chrétien, il dit pas, attends, je te dis, mon Dieu, attends que, assieds-toi, hein, t'as le temps, là, t'as un peu de temps, parce que vraiment, mais on peut pas rendre la gloire à Dieu. C'est pas vrai? Mais vous êtes avec moi ou, vous savez, vous êtes rentré à la maison? On ne peut pas rendre gloire à Dieu quand on a mal acquis les biens. Mais quand on a marché avec Dieu, Dieu nous rend prospère. Dieu nous donne les désirs de nos cœurs et on nous pose la question. On dit, mais dis-moi là, d'où ça vient? On dit, mais je te le dis. Je te le dis parce que mon Dieu est bon. Et hop, la gloire va à Dieu. Alors, quand les gens voient notre prospérité, eh bien, il est clair que Dieu se manifeste à eux par sa bonté. Et vous savez ce que fait la bonté de Dieu? Romains nous dit que la bonté de Dieu pousse à la repentance. La repentance, c'est quoi? Souvent les gens disent, oh, la repentance, c'est demander pardon et se détourner de ses péchés. C'est un aspect de la repentance. La repentance veut dire faire demi-tour. C'est tout. Avant, ça veut dire changer sa façon de penser. Et quand les gens voient la prospérité et qu'on dit aux gens comment on a changé de travail, comment par un rendez-vous divin, eh bien, on a rencontré tel employeur, comment par un rendez-vous divin, on a fait telle affaire, ou dans l'immobilier, ou ailleurs, ça parle de la bonté de Dieu. Et ça amène, ça donne l'occasion aux gens de penser différemment au sujet de qui? De nous? Non. De Dieu. De Dieu. Est-ce que vous comprenez que l'Église a besoin de prospérer? L'Église a besoin de se rendre compte que Dieu se glorifie de ta prospérité. Alors lui, il l'a mis très clair dans les Écritures. Il nous a garanti la prospérité en nous rachetant de la malédiction de la loi qui notamment comprend la pauvreté. Mais si toi tu résistes et tu insistes pour vivre dans le juste assez. Si tu insistes pour continuer à t'asseoir sur cette chaise qui n'a que 3 pieds et avec un quatrième qui est bancal, Dieu ne pourra jamais te donner cette salle à manger qu'il veut te donner. Pourquoi? Parce que tu n'en veux pas. Tu ne veux pas de ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu as toujours cru que tu devais rester à un certain niveau, parce que c'est toi qui as fait les calculs. Moi, je gagne ça, alors je ne peux vivre qu'à ce niveau-là. Faux, faux. Tu dois vivre au niveau de la pensée de Dieu. Tu dois vivre au niveau de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit dans les Écritures que tout a été créé par la parole. Tu parles ta prospérité. Évidemment, tu sais, mais ça suffit pas. Tu parles ta prospérité. Tu parles ton changement de statut. Tu parles les biens matériels à l'existence. Tu parles cette nouvelle chaise à l'existence. Tu parles cette nouvelle voiture. T'es pas obligé de raconter à tout le monde ce que tu es en train de dire. Parce que si tu dis ces choses à des incroyants ou à des chrétiens qui n'ont pas le même niveau de foi que toi, tu vas t'entourer de moqueurs qui risquent d'affecter ta foi. Donc, parle de ces choses. Un, à Dieu, deux, à toi-même, et avec des gens qui comprennent ton langage. Il y en a beaucoup qui se moquent. Oh, confesser sa foi, d'accord, je te donne rendez-vous dans 10 ans, et on verra où ta foi t'amène, et moi je te garantis, on verra où ma foi me mène. Laissez les moqueurs se moquer. Laissez ceux qui ne comprennent rien vivre au même statut. Laissez-les transpirer et laissez-les rester au même niveau. Mais vous, vous savez mieux, vous connaissez autre chose. Utilisez ce que vous connaissez, mais vivez par la parole, vivez selon le standard de la parole de Dieu. Vivez en fonction du désir de Dieu, vivez en fonction de la rédemption. Mais encore une fois, il faut savoir toutes ces choses pour dire, Seigneur, tu sais quoi? Eh bien, je dis oui à la prospérité. Et je n'aurai pas honte de la prospérité. Vous dites, oh, mais dis donc, pasteur, tu as oublié tous les gens malheureux qui sont dans la rue et qui n'ont pas assez. Et tous les gens qui sont dans des pays pauvres. Ben, tu sais quoi, tous ces gens, ils pourraient peut-être vivre mieux si tu prospérais, si tu donnais. C'est pas la peine, c'est le diable qui culpabilise. C'est le diable qui culpabilise d'avoir des biens. Vous rappelez quand cette femme-là avait ce parfum qui était l'équivalent d'un an de salaire, elle est allée l'amener à Jésus immédiatement. Un esprit religieux se manifeste au travers de Judas qui dit « Mais on aurait dû garder ce parfum et le vendre pour que l'argent, on puisse le donner aux pauvres. » Il y aura toujours quelqu'un qui pensera comme ça. Hein? Il y a de l'argent pour tout le monde sur cette terre. Dieu a mis tellement de richesses sur cette terre que statistiquement, chaque personne peut être millionnaire. Pourquoi pas vous? Voilà, ça c'est ce qu'il fallait pour vous empêcher de dormir ce soir. Pourquoi pas toi? Pourquoi tu serais pas un millionnaire? Pourquoi pas? Parce que tu ne le veux pas. Pas parce que Dieu ne veut pas. Parce que tu ne le voudras pas. Bon, ok, pourquoi pas avoir la moitié d'un million, alors? Bon, je vais vous aider. Allez, on va dire francs au lieu d'euros. Ça va un peu calmer le jeu, là. Écoutez-moi, il va falloir qu'on change notre façon de penser. Il va falloir qu'on épate ce monde de la gloire de Dieu. Quand il est dit que l'Esprit de Dieu est sur nous pour être témoin, ce même Esprit est celui qui nous remplit de puissance pour parler, mais pour parler de qui ? Pour parler de lui. Il y a beaucoup de chrétiens, ils n'ont rien à raconter. Pourquoi ? Parce que tout est à leur limite à eux. Tout ce qu'ils ont acquis, ils l'ont eu par leur transpiration. Ils n'ont jamais vu les bénédictions de Dieu, ils n'ont jamais vu l'abondance de Dieu, parce qu'ils ne savent pas que Dieu est un Dieu d'abondance. Ils n'ont rien à raconter. Rien à raconter. Aucun miracle, aucune provision généreuse, parce que tout ce qu'on voit, c'est petit. Il n'y a rien à raconter. Tout le monde sait que ce qu'ils ont, c'est à la mesure de ce qu'ils ont pu gagner. Pourquoi ne pas vivre dans quelque chose qui est plus grand que ton salaire? Mais c'est l'objectif qu'il faut que l'on recherche. C'est l'objectif qu'il faut que l'on recherche. J'espère que vous êtes en train de penser. Vous êtes en train. Mais il s'agit pas de penser. Il faut le dire. Il faut méditer sur ces choses-là. Il faut dire, attends, là. Qui est mon Dieu? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Jésus a dit, je t'ai glorifié. Sur cette terre, je t'ai glorifié. Les gens ont entendu parler de toi à travers mille et une manières, mille et un aspects de ma vie. Oh, beaucoup de chrétiens parlent à ça. Ils parlent. Les versets. Mais ce qu'ils disent ne colle pas avec le Dieu qu'ils présentent. Ce qu'ils vivent ne colle pas avec ce qu'ils disent. Vous le répétez après moi. J'ai été racheté de la malédiction de la loi. J'ai été racheté de la pauvreté. Dieu veut que je prospère. Il a payé le prix pour que je vive dans l'abondance. L'abondance selon sa définition. Et ce soir, je dis oui Seigneur, j'accepte cette prospérité. Envoie-moi cette prospérité et je serai fidèle. Je te servirai et je te rendrai gloire. Compte sur moi Seigneur. Bon, vous voulez un dernier choc avant d'aller vous coucher ce soir ? Psaume 35. Allez. Psaume 35. Alors, ce message est valable pour les jeunes aussi. Je suis pas en train de parler de la prospérité que Dieu a une fois que vous avez 41 ans. Dieu veut rendre les jeunes prospères. Ça veut dire vivre d'une manière surnaturelle. C'est pas ton père, c'est pas ta mère qui t'achète les jeans que tu portes et tout le monde connaît le prix. Et ça vaut pas 50 € non plus. Tout le monde sait que l'ordinateur avec les programmes, eh bien, tu ne l'as pas volé. Tout le monde sait que peut-être c'est pas tout à fait ton père pour l'instant qui peut, mais tu as une histoire à raconter, c'est surnaturel. Tu as cru à la prospérité, tu as parlé ces choses, tu as proclamé, tu as marché avec Dieu. Et ce qui est dans l'esprit s'est matérialisé dans ta vie sur terre. Et tu dis, moi, j'ai une histoire à raconter. Tu veux savoir pourquoi j'ai le scooter que j'ai? Tu veux savoir pourquoi je porte les baskets que je porte? Moi, je vais te dire pourquoi. Mon Dieu. Mon Dieu prend soin de moi. Il me veut prospère. J'ai cru. Voilà. Je porte. Ça parle. Ça parle. Alors, tous ceux qui sont papas au milieu de nous, prospérez, hein, parce que c'est pas tout de dire, oui, ben, je veux que mes enfants aient quelque chose de bon à raconter, donc, ils n'ont qu'à exercer leur foi et moi je reste au niveau où je suis, hein. Non. Tout le monde prospère. C'est un ordre de Dieu. C'est un ordre que Dieu donne à l'Église. Prospère! Tu crois pas que tu as quelque chose à raconter quand les enfants de tous les voisins n'ont pas cessé d'être malades pendant l'hiver et les tiens, ils continuent tranquilles. Ils ne sont même pas rendus compte qu'il y avait des grippes. Ils ne sont même pas rendus compte qu'il y avait des virus dans l'air. Tu crois pas que tu as quelque chose à raconter dans cette prospérité? Tu crois pas que quand les entreprises d'un bout à l'autre de la rue coulent et que la tienne continue à prospérer, tu as quelque chose à raconter? Mais il ne s'agit pas de faire croire, non mais attendez, j'ai quelques diplômes, hein, attention moi. Non, il s'agit de dire la vérité. Dieu m'a rendu prospère et il le fera pour vous si vous lui donnez votre vie. Vous avez trouvé le psaume 35? Ah, allez, verset 18. Non, à vrai dire, je ne suis pas dans le bon verset, mais il me plaît celui-là. Donc, regardez le chapitre 33, verset 18. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant, quoi? La famine. Ça me parle de mon Dieu. Le psaume 35 maintenant, verset 27. Qu'ils poussent des acclamations et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justice. Qui ici prend plaisir à la justice de Dieu? Ouais. Non, mais pas ceux qui aiment, hein, seulement la justice de Dieu. Pas simplement ceux qui connaissent la justice de Dieu. Ceux qui prennent plaisir à la justice de Dieu. Et que sans cesse ils disent, voilà, que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Alors le mot paix, je vous ai dit qu'en hébreu, ça veut dire shalom, qui veut dire rien de cassé, rien qui manque. Alors, une autre version dit, est-ce que vous voulez savoir? Bon, revenez demain. Père, je veux te remercier dans le nom de Jésus pour le temps qu'on a passé ensemble. C'est pas vrai. Vous voulez savoir quel est l'autre verset? Une autre traduction, pas verset, une autre traduction dit, qu'il dit sans cesse, exalté soit le Seigneur, qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Et ça a du sens. Si paix, c'est shalom, et que shalom veut dire rien de cassé, rien qui manque, ça c'est la prospérité. Une autre version donc dit, exalté, mais il faut le dire, exalté soit l'Éternel qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. J'ai devant moi combien de serviteurs de l'Éternel ici? Dieu veut prendre plaisir à ta prospérité. Parce qu'à chaque fois que tu prospères, à chaque fois que tu vas de gloire en gloire, tu peux la lui donner. Et tu peux dire comme Jésus, je t'ai glorifié sur terre. Wow. Bon, vous allez méditer sur ce passage. Vous avez pensé à tout ça. Vous avez gardé ces choses dans votre cœur. Amen. Alors, n'allez pas non plus râler, hein. Si les choses ne sont pas encore comme vous voudriez qu'elles soient, il ne s'agit pas de détruire notre avenir avec des semences, des paroles qui, elles, sont en train de tout casser dessus. Ouais, on n'arrivera jamais à la fin du mois, et j'en ai marre avec ces impôts qui n'arrêtent pas d'augmenter, et regarde la rentrée des classes, mais dis donc, mon fils, tu as vu comment ça coûte, ça? Non. Quand vous avez vos factures qui arrivent, gloire à Dieu, je suis en train de prospérer. J'ai une telle abondance que cette facture n'est rien pour moi, dans le nom de Jésus. Argent, viens, facture, je déclare que tu es payé. Tu dis, tu peux parler à tes factures? Tu parles bien à ton chien. Tu parles bien à ta voiture. Démarre, je te dis, démarre! Jésus a parlé au figuier, Jésus a parlé à la tempête. Josué a parlé au soleil, lui a commandé de s'arrêter dans sa course. Pourquoi tu parlerais pas à tes factures, si le monde a été créé par la parole? Il y a matière à réflexion ce soir, non? Alors là, pour de bon, je vais prier. Père, je veux te remercier dans le nom de Jésus, parce que tu es celui qui nous conduit, et tu veux, Père, que nous fassions un bon voyage sur cette terre, c'est-à-dire que nous puissions dire, mon Dieu, mission accompli. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, parce que Père, je n'ai manqué de rien. C'est le désir de notre cœur de pouvoir faire tout ce que tu nous demandes de faire, parce que nous ne manquons de rien. Seigneur, nous recevons cette prospérité. Nous voulons avoir des histoires à raconter. Nous voulons des témoignages à raconter de toi, mon Dieu. Nous voulons parler de ta bonté, afin que les gens soient amenés à la repentance et qu'ils pense autrement te concernant, qu'ils cessent de croire que tu te désintéresses d'eux, qu'ils cessent de penser que tu es un Dieu injuste et indifférent, mais qu'ils entendent, qu'ils sachent et qu'ils voient que tu es un Dieu aimant, que tu es un Dieu qui est fidèle, que tu es un Dieu qui déverse de l'abondance sur ceux qui te font confiance. Glorifie-toi, mon Dieu, à travers nous, au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, je sens de penser. À partir de ce soir, rien n'est trop beau pour moi, rien n'est trop cher pour moi, et au fur et à mesure où ma foi augmente, les richesses augmentent, les biens augmentent, je suis propriétaire. Je suis propriétaire, pas seulement d'un appartement, pas simplement d'une maison, mais la Bible dit des maisons. Mes biens matériels se multiplient d'une manière surnaturelle. D'une manière surnaturelle. La bénédiction spirituelle envahit mon naturel. Au nom de Jésus.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.